Les Black Locals présentent une émission féministe. Rien à signaler.
Bonsoir et bienvenue sur l'émission Rien à signaler, l'émission féministe de Radio Audio. Ce soir, on parle de féminisme et aussi de transsexualité et on a des invités qui sont Lepka et Anélie. Et vous allez nous parler d'une brochure qui s'appelle Transhistoire, d'un collectif qui s'appelle TTF, Trans Terriblement Féministe. Et on va aussi parler d'un film qui va passer cette semaine à la fac qui s'appelle L'Ordre des Mots. qui va passer la semaine prochaine à la fac, donc qui est un film sur des activistes et des militants et militantes trans. Donc on va parler de ça, et puis on va parler d'un truc qui s'appelle le DSM-5, d'une campagne qui s'appelle Stop Pathologisation Trans 2012. Voilà, tout ça en une heure. Et on va commencer avec un enregistrement qui vient de l'émission lyonnaise On n'est pas des cadeaux, qui est une émission transpédéguine que vous pouvez écouter sur Radio Canu le vendredi soir.
Le vendredi de 17h à 18h.
Voilà, ou sur Internet. Une semaine sur deux. Et l'autre semaine, c'est l'émission féministe, donc c'est pas grave si on se trompe.
Ouais, c'est ça, de Lilith, Martine et les autres. Et sinon, sur Internet en direct, soit sur le site de Radio Canu, soit sur le blog de On n'est pas des cadeaux.
Voilà, du coup, on a pris un enregistrement d'une personne qui s'appelle David de l'association Chrysalide, l'association trans lyonnaise Chrysalide, qui explique un petit peu ce que c'est la transidentité. Voilà, donc l'enregistrement, il n'est pas très très bon, il n'est pas de très bonne qualité au début, et puis ça s'arrange après, donc tenez le coup. Et puis ensuite, on attaquera l'émission donc avec vous deux qui allez nous parler de cette brochure.
La transidentité. Vous remarquez que je ne parle pas de transsexualisme ou de transsexualité, mais de transidentité, puisqu'il s'agit d'une identité, et pas d'une sexualité, et pas d'une maladie. Bon, il y a différentes manières d'exprimer les choses. Certains parlent d'un désaccord entre l'esprit et le corps. On considère que c'est un petit peu plus compliqué, mais pour l'instant, on va en rester là. On va dire qu'on a un corps biologique, un genre social attaché à ce corps biologique, et que. On ne vit pas forcément bien et qu'on réinvente les choses et que d'autres personnes veulent vivre différemment que selon la norme. Et ça n'est donc pas une pathologie, c'est juste pas habituel, mais c'est pas une pathologie. On risque de passer notre temps à parler de trois genres ou de trois sexes. On va dire qu'il y a trois grands niveaux à articuler et à penser séparément, au moins. Le sexe psychologique, évidemment, à savoir le sentiment d'être plus ou moins un homme, plus ou moins une femme. C'est selon ses propres critères et selon la culture à laquelle on appartient. Le genre social ou le sexe social, pareil, masculin, plutôt féminin, plutôt entre les deux. Et le sexe anatomique, et là on a un petit souci, puisque pareil, il n'y en a pas que deux. Il y en a beaucoup, puisque se posent des problèmes d'hormones, de chromosomes, de gonades, de tout un tas de choses qui échappent à la bonne partie de la population. Mais on va dire qu'il y a plusieurs. Il y a plus de deux corps physiques, plus de deux corps mentalement, et plus de deux genres de corps physiques. Deux corps physiquement, deux genres mentalement et deux genres socialement. Voilà. Et ensuite, les fameuses définitions transgenres, transsexuelles, travestis. Alors, nous, on n'est pas attachés à des définitions particulières, on s'en fout un peu, à vrai dire. Beaucoup de gens opérés des pieds à la tête et qui ont leur changement d'état civil se disent transgenres. D'autres qui n'ont rien commencé mais se disent transsexuels. Et d'autres personnes se disent travestis, même s'ils vivent à temps plein leur identité qui n'est pas celle de leur carte d'identité. Donc nous, on n'est pas attaché en fait à une définition particulière.
Oui, voilà. C'est vraiment chaque personne qui a ses propres définitions, qui s'identifie selon ses propres critères.
Alors dans une conversation, ça risque d'être un peu ambigu. Il y a des gens qui ont super mal le prendre de se faire appeler transsexuel et pas transgenre ou l'inverse. Essayez un peu de savoir par cooptation quelle est la sensibilité de la personne. Enfin, nous, on est d'accord sur le terme trans, comme ça, sans d'autres personnes. Ça met tout le monde d'accord. Et voilà, juste pour être sûr, même si on est au centre gay et lesbien, la fausse identité n'est pas une orientation sexuelle. On peut être trans et hétéro, on peut être trans et homo, on peut être trans et bi, on peut être trans et ne pas se définir. Donc, pour donner un exemple concret, je ne sais pas si c'est bien clair, c'est comme si moi j'aimais les garçons, donc je suis FTM et je pourrais être gay. Et Sophie, qui est MTF, pourrait aimer les filles, d'ailleurs, un peu. Et donc, serait lesbienne. Et donc, j'ai employé le mot FTM. Ouais, c'est female to male, donc transition femme vers homme. C'est de l'anglais. Parce que ça vient des États-Unis, parce qu'on pense toujours penser des trucs un peu avant nous, en fait. Donc, du coup, on se met tous d'accord sur un vocabulaire. Donc, FTM, c'est quand tu fais une transition avec un corps femelle vers une entité masculine. Et MTF, c'est quand tu fais une transition d'un corps mâle vers une entité féminine. Voilà. Simplement. Enfin, après, on peut négocier, hein, mais en gros, c'est ça. On simplifie les trucs entre hommes et femmes, tu vois, mais enfin bon, en même temps. Hein. Et on va aussi parler du problème du jusqu'au bout, la fameuse phrase du jusqu'au bout. On nous demande toujours si on veut faire les choses jusqu'au bout. Alors, en fait, il n'y a pas de bout, voilà, il n'y a pas de chemin à accomplir, il n'y a pas de recette particulière. Voilà, il y a des gens qui veulent prendre des hormones, il y en a qui n'en prennent pas. Certains veulent se faire opérer du haut, du bas, sur les côtés, ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé en fait. Voilà, il y a tout un tas de définitions à ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Donc, bon, à part après, légalement, pour avoir ses papiers, il y a tout un tas de contraintes, on va dire arbitraires. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on n'est pas moins une femme parce qu'on a un pénis, on n'est pas un homme parce qu'on a un vagin. Puisqu'il s'agit d'une identité, l'identité, c'est dans la tête et pas entre les jambes.
On va enchaîner avec, avec l'intervention de TTF.
Ok, alors nous on est là pour parler d'une brochure qu'on vient de sortir qui s'appelle Transhistoire, qui est un jeu de mots entre transistor et transhistoire, enfin des histoires de trans quoi. Et en fait cette première brochure c'est des FTM et des FTX qui parlent de leur rapport aux institutions et aussi un peu au monde extérieur. Et au travers de la brochure, eh ben, on raconte un peu des expériences qu'on a vécues dans la rue, au travail, avec le corps médical, avec les flics, etc. Et je vais laisser Lepka présenter un peu le groupe.
Bonsoir, donc, nous sommes un collectif de personnes au départ ronalpiens. Donc nous sommes des transsexuels et nous sommes féministes aussi, même si ça soit incroyable, mais c'est comme ça. Donc, nous sommes des personnes qui nous sommes des femmes, mais nous avons choisi de nous masculiniser, sans pourtant vouloir devenir des hommes, comme la société les comprend d'un point de vue patriarcal. Dans notre transition, notre but n'est pas forcément d'avoir des recours à des opérations, des traitements hormonaux ou des changements d'état civil. Nous sommes un groupe de personnes de moins de 30 ans, blanches et racisées, issues des classes moyennes. Et voilà, comme nous avons dit, nous sommes féministes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, nous sommes des féministes, même si nous n'appartenons pas à la classe des femmes. Nous sommes féministes autant que la cité et le reste binaire, on se définira comme ça. Même si notre féminisme, ce n'est pas un féminisme essentialiste, alors ça veut dire quoi, le féminisme essentialiste? Ben, à peu près, ça veut dire que le féministe essentialiste, il reconnaît l'identité des genres, donc du coup, la façon dont on se considère né homme ou femme, comme quelque chose qui est invariable, qui fait partie de la nature. Nous n'analysons pas les genres comme ça. Pour nous, les genres et le sexe, la façon comment notre genre est construit socialement ou biologiquement, pour nous, il est modifiable et nous le voulons modifier et détruire les barrières et tout ça. Alors, pourquoi on est féministe aussi? C'est parce que nous analysons la société comme une société qui est basiquement basée sur le patriarcat, qui est un système de domination qui agit sur des différents aspects, donc sur le sexisme, sur l'obligation à l'hétérosexualité, et sous l'obligation aussi de correspondre à un des deux genres, donc homme ou femme, admis et validé socialement. Nous ne voulons pas de tout ça. Voilà. Et je laisse la place à...
Ce groupe, il veut pas non plus d'une vie dictée par l'État, avec une injonction au travail salarié, à la vie de famille, à l'hétérosexualité. Et donc on évolue dans des espaces collectifs de partage et de plein de manières nous vivons dans des petites illégalités, même si ça n'a pas les mêmes conséquences en fonction de nos positions sociales. Et l'idée d'écrire cette brochure et ces textes, c'était de pouvoir exprimer des vécus qui sont, en tout cas de pouvoir rendre visibles des vécus trop peu connus. Et c'est aussi une manière de pouvoir, ça nous semble important pour pouvoir en parler de ces parcours minoritaires, donc ceux transmasculins et féministes, et de les rendre visibles, c'est ce qui les fait exister et c'est ce qui permet des discussions. Donc la, ce qu'on vous propose, c'est de lire un peu des passages de la brochure, en tout cas de les, enfin, d'en raconter. Et notamment, toute une partie de la brochure, elle s'adresse, ou en tout cas, elle parle du corps médical, et notamment du protocole officiel. Alors, pour résumer un peu, le protocole officiel, c'est quand on veut transitionner, et c'est-à-dire, et qu'on veut accéder à des hormones, ou à des opérations, et ou à un changement d'état civil. Il faut forcément passer par des psychiatres dans tous les cas. Et il y a des équipes officielles dans les principales grandes villes, comme Lyon et Paris et d'autres villes, qui sont autoproclamées équipes officielles et qui donc proposent un protocole. Et je vais laisser Lebka parler un peu du reste du protocole.
Voilà, donc ces équipes officielles, il y en a plusieurs dans chaque région. Donc, c'est des médecins, des psychiatres, des psychologues, des endocrinologues et des chirurgiens. Et en fait, pour accéder à ces protocoles, qui sont certainement les plus connus, donc les plus accessibles pour les gens, ils représentent aussi la possibilité de se faire rembourser des opérations. Mais d'y accéder, ce n'est pas du tout évident, ni pas du tout donné à tout le monde, parce qu'ils ont certains critères d'acceptation. Donc, pour vous faire une idée de c'est quoi ces critères-là, par exemple à Paris, pour accéder, pour être un candidat ou une candidate à transsexuel, il faut avoir plus de 23 ans et moins de 55. Donc voilà, il ne faut pas prendre la décision ni trop tard ni trop tôt. Il ne faut pas avoir des engagements familiaux importants, donc pas être marié et pas avoir des enfants. Il ne faut pas pratiquer la prostitution. Il faut se sentir hétérosexuel dans son genre d'arrivée. Donc voilà, en fait, c'est la normativité, en fait, c'est un certain critère qui veut donner accès à des transitions avec des personnes qui sont vraiment dans des trucs normatifs et acceptées socialement. Donc, bien sûr, l'hétérosexualité. Il faut avoir un casier judiciaire vierge. Il ne faut pas être séropositif au VIH ni à l'hépatite C. Il ne faut pas être diagnostiqué des autres maladies mentales. Donc voilà, il ne faut pas trop cumuler des déviances. Et par exemple, dans l'équipe officielle de Lyon, en plus de ça, il faut avoir un logement fixe et des revenus. Voilà, c'est des choses qui sont super évidentes pour tout le monde, d'avoir un logement et tout ça. Bah, bien sûr, bah, on te demande ça en plus, quoi. Voilà. C'est ça que je voulais dire.
Ah non, c'est bon. Et ensuite, du coup, c'est après les critères, c'est tout. Tu peux nous parler de tout le côté de psychiatrisation.
Oui, par rapport à, tu veux dire, par rapport à les suivis. Ouais. Voilà. Oui, j'avais oublié de vous parler de ça. Donc, en fait, une fois on t'a accepté, donc c'est pas du tout évident. Après, tu peux inventer, en fait. Ton parcours en te faisant violence toi-même pour essayer de t'accepter quand même. Donc une fois on te donne la carte verte pour avoir accès à cet suivi. Tu suis certaines étapes qui sont très longues. Donc d'abord t'es suivi par un psy pendant un mois 12 ans. Donc pendant un mois, 12 ans, quand t'as pris la force de prendre la décision de transitionner et tout, tu dois attendre encore minimum 2 ans de suivi psy. Et en plus, il y a un autre psychiatre de l'équipe officielle qui doit donner en plus son avis. Après, en plus, il te demande de faire un test de real life. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça veut dire de vivre dans son genre d'arrivée après transition, sans avoir pris de hormones, sans avoir eu de séparation. Donc il se dit, allez, vas-y, affronte la transphobie quotidienne. Et vis dans ton genre d'arrivée, bah, sans que ton corps ait changé, quoi. Donc pour voir jusqu'à où tu es prêt à supporter en fait, la violence que... sans aucun soutien, en fait. Donc il se demande de faire ça. Après, il se demande en plus de faire un bilan psychologique qui moi, par exemple, je l'ai fait et ça m'a fait vraiment rire. Donc en fait, il se demande des tâches, donc les tâches de recherche, vous savez bien, là, tout ce truc, la psychanalytique. Ils te demandent de voir, ils te font des questions sur ta vie, et avec ça, bah, ils sont censés savoir qu'est-ce que c'est bien pour toi. Voilà, d'une façon là, t'as levé la liberté de choisir pour toi-même et de voir si t'as pas d'autres, si j'arrive pas à détecter d'autres pathologies psychologiques. Et en plus de ça, ils te font des tests sanguins, je sais pas trop quoi, pour vérifier que t'es pas intersexe. Donc voilà, ce sont leurs critères aussi d'intersexualité. Et voilà, donc après tout ça, bah, on a bien galéré et avec beaucoup de chance, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive jusqu'à la fin de ça, même si après il y a d'autres, on vous parlera, on a d'autres façons de pouvoir transitionner. Bah, on attend 2-3 ans et après tout ça, bah, on peut avoir peut-être la carte verte pour suivre son traitement hormonal. Et de se pouvoir opérer avec des médecins qu'on ne choisit pas forcément.
Ouais, du coup, ce qui est, pour nous, ce qui est important de rappeler, c'est que ces équipes qui ont décidé ce protocole, il n'y a rien de scientifique en fait, derrière ça. C'est vraiment idéologique. C'est des personnes qui ont choisi à un moment donné les critères sans les justifier et qui ont imposé leurs critères dans un truc de valeur morale, de valeur... Enfin, ouais, c'est ça. Et du coup, à aucun moment, il y a l'avis de la personne concernée qui est pris en compte. C'est vraiment eux qui vont choisir s'ils estiment que la personne est trans ou pas, et s'ils estiment qu'elle va avoir accès aux hormones ou pas. Et du coup, on va vous lire après pourquoi, en tout cas, un des textes, juste après que je vais vous lire, c'est pourquoi on refuse ce parcours-là. Et juste avant, je voudrais vous citer, c'est une citation du discours de l'équipe officielle de Paris qu'on retrouve sur leur site. Alors, je ne vais pas vous donner leur site parce que je ne fais pas de pub, mais, mais en tout cas, c'est facile à retrouver. Et où du coup, ils disent « Le transsexualisme est une maladie authentique ». Qui est infiniment pénible pour la personne qui en est atteinte et qui justifie donc une prise en charge médicale. Et je continue. À nos yeux de médecins, le transsexualisme est une maladie et non un objet de lutte politique, polémique ou idéologique. Les problèmes parfois complexes qu'il pose ne peuvent être résolus ni par voie législative, ni par l'audimat, mais au cas par cas et avec la discrétion, le recul et la sérénité qui conviennent par des médecins spécialisés et expérimentés qui agissent en leur âme et conscience selon les règles du code de déontologie médicale dans le seul intérêt des personnes qui en sont atteintes. Alors, du coup, voilà, c'est montré que d'une part... Ouais, ils voient voilà, la transidentité comme une maladie et qu'aussi, ils se déclarent spécialistes alors qu'il n'y a aucune spécialité sur les trans, en fait. C'est juste eux, à un moment donné, qui ont décidé de s'auto-proclamer spécialistes. Et voilà, qu'il n'y a rien... Enfin, juste, ils ne connaissent rien et ils ne connaîtront jamais rien parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre ni de nous entendre parler, en fait. Du coup, voilà, le texte que je vais vous lire, ça s'appelle « Refuser le parcours officiel ou se faufiler entre les mailles ». D'abord, c'est simple, je ne pourrais pas. Au vu des critères des équipes officielles, je ne désire pas devenir un homme. Je désire être une identité autre, un entre-deux, un possible plus large que les deux catégories figées. Et pas seulement pour moi, pour d'autres gens aussi qui le désirent, transgenre. Ma transition est une étape. Je ne me considère pas comme malade. C'est cette société qui l'est. Et je suis souvent énervé par elle et ses garde-fous, alors je veux m'organiser à la fois contre et sans elle. Je refuse de passer 2 ans à me faire ausculter le cerveau afin qu'il détermine si je suis un cas suffisamment désespéré pour qu'il m'accorde des opérations. Je refuse de passer de l'énergie à trop leur mentir, à réinventer mon passé pour qu'il rentre dans leurs critères. Mentir sur ma vie actuelle, mes engagements politiques, mes envies, pour que je semble correspondre à l'American way of life. Je refuse de leur parler et leur montrer mon intimité, mon corps et mes pensées mises à nu. Je ne veux pas être un cas dans leur dossier qu'ils traitent. Je ne me considère pas saisissable. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de faire une psychothérapie. Je choisirai l'analyste, en changerai s'il est dans le jugement, parlerai de mes doutes du moment et de ma transidentité comme d'un autre élément qui me constitue, pas plus, pas moins. Je vais vers une identité qui n'existe pas vraiment pour mille raisons et je n'ai pas à me justifier constamment. C'est déjà assez lourd à porter au jour le jour. C'est en grande partie par notre société que s'est construite mon identité, par des rencontres avec d'autres au fil des ans. Je ne me suis pas façonné tout seul. Ma transition est aussi un choix contre cette société et pas nécessairement pour moi. Parce que le vivre en dehors n'existe pas, je veux vivre au mieux, dans les espaces existants, subversifs à cette société. Refuser la psychiatrie, je peux faire ce choix grâce aux autres trans qui avant moi ont choisi des parcours officieux et qui les assument. Des personnes à qui causer, qui indiquent des adresses utiles, qui cherchent et trouvent des solutions, en mettant en place des plans qui réfléchissent à comment trouver la thune pour payer les opérations souvent très coûteuses. Seuls les parcours officiels bénéficient d'une prise en charge par la sécurité sociale. Et c'est une force de pouvoir vivre dans ce circuit parallèle et moins normé.
Voilà, donc maintenant à continuation, j'ai envie de vous lire un texte qui est dans cette brochure, qu'après on vous donnera l'adresse à... où vous pouvez nous contacter si vous voulez la voir. Et c'est un texte qui parle d'un vécu d'un d'entre nous qui, dans ce truc de se rechercher soi-même en dehors de les catégories homme-femme et les difficultés que ça entraîne du fait de vivre dans une société basiquement patriarcale. Voilà. Dans ce texte s'intitule « Questions sur mon image dans le monde patriarcal ». Dans la rue, je suis aperçu comme un mec et ça ne me va pas. Je ne veux pas accepter la place sociale de dominant que la masculinité suppose. Je voudrais être invisible et dégenré. Est-ce que cela est possible? Je ne crois pas parce que la seule image neutre, c'est la masculinité. Ça brûle dans mon intérieur. La contradiction entre ce qu'on me renvoie de mon identité et comment je m'aperçois. Comme je me vis, comme je vis mon rapport aux autres. Est-ce que tu peux apercevoir la guerre qui se produit en moi? De quelle façon est-il possible de rompre les catégories de genre? Je cherche des solutions dans des discussions entre trans et F2X. À un moment, je me rends compte que, dans l'extérieur, je ne peux pas être visible en tant que trans, parce que dans cette société, il n'y a que deux cases, hommes et femmes. Si je veux être à moi aperçu en tant qu'homme, après ma transition, je peux seulement être aperçu en tant que PD ou tapette radicale ou travesti. Ces identités font en quelque sorte partie aussi de la catégorie de l'autre. Je constate que les gens m'assignent à la case PD très facilement, donc je joue avec ça. Cette identité sociale, je la prends comme stratégie d'existence et de refus à l'identité masculine normative et du modèle de domination dont il découle le patriarcat. Malgré ça, souvent la part d'assignation à la case homme me pèse vraiment et je me demande vers où aller. Mon corps reste une prison quand je suis dans ce monde binaire.
Voilà, on a fini de lire des parties de la brochure et si vous voulez la lire entièrement, alors soit on vous l'envoie et vous nous écrivez à ttf@riseup.net, riseup c'est R-I-S-E-U-P. Ou alors, vous pouvez aussi la télécharger sur un site internet en construction qui s'appelle ttf.poivron.org. Voilà.
Mercredi
17 février à 18h à Jean Monnet.
Voilà, à la fac, on va vous expliquer plus tard qu'il y a une projection. On va en parler. Et puis, merci beaucoup pour votre présentation de la brochure. C'est vrai qu'elle est super chouette. Nous, on l'a lu et on l'a trouvé vraiment, vraiment bien. Et il y a plein de super dessins aussi dedans. Puis il y a des blagues aussi.
Des blagues
très drôles. Ça ne gâche rien. Et puis, on va enchaîner avec un petit morceau de musique pour faire une pause d'un groupe qui s'appelle CBA. C'est en allemand. Ça s'appelle Geschlechte Rollen. Et j'ai un super accent allemand. Et ça parle aussi de transgenre, de gender queer. Voilà, pour ceux qui comprennent l'allemand, vous comprendrez la chanson. Et pour les autres, c'est issu d'une compilation féministe qui a été faite pour le Ladyfest de Dijon. Et du coup, il y a des traductions. Et peut-être on en aura quelques-uns aussi mercredi, je sais pas. Voilà, on enchaîne avec cette chanson.
Von alle Leute, die sagen, Mädchen, du wolltest dir deine Haare lang wachsen lassen. Das geht auch an die Leute dieser Welt, die meinen, Jungs tragen nur Hosen, keine Scheiße und Gleiche. Für dich spreche ich ein riesengroßes Fuck you aus. Scheiß auf zwei Geschlechter Welt, mach die Augen endlich auf. Denn das Er und das Sie wurden tausendmal gebrochen. Man muss nur mal ein bisschen genauer hingucken. Denn Er ist für sie, ist ein Er, ist ein Er. Kennet wir denn nicht das Ganze über das She-Rap? Über das She-Rap? Über das She-Rap? Über das She-Rap, rap, rap, rap. Leute, gestern wurde ich wieder mal krass angemacht, weil ich aufs Herrenklo wollte, aber nicht ins Männerbild passt. Junge Frau, das Damenklo ist auf der anderen Seite. Ja, so teilte eine Stimme, ist mir mit auf der Weite. Es befreite sich die Frage, bist du ein Er oder eine Sie? Ich sag ein Er, doch sie sagte mir, das glaube ich dir nie. Denn deine Stimme ist viel so hoch, deine Haut viel zu zart. Und außerdem bist du für einen Typ ganz schön wenig behaart. Ja, wie ein Leopard, nicht einfach so umgehbar sein kann. Hat die Gesellschaft ihre Regeln und bestimmt von Anfang an. Doch daran werde ich mich jetzt nicht länger halten. Lass uns diese Scheiße endlich in tausend Stücke spalten. Falten wir Schubladen, denken zu einer Rakete, die ins All verreist. Doch das geht auf diesem Planeten hier total vorbereitet. Denn wir sind doch total individuell hier. Wie Geschlechter auch, ne, wir sind einfach mal vier. Geschlechterrollen, ich dachte mich, ich sei ein Teil. Geschlechterrollen, dazu sage ich klar nein. Ja, Geschlechterrollen werde ich nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Geschlechterrollen, wir lassen uns nicht ein Teil. Geschlechterrollen, dazu sagen wir klar nein. Ja, Geschlechterrollen werden wir nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Was sind denn jetzt die Tomboys, sind das Mädchen oder Jungs und ist dran? Sexualität nicht ganz schön ungesund, denn ohne Grund kommt doch nicht scheiße so eine Lesbe auf die Welt. Und ein Typ, der sich am besten Frauenkleidern gefällt. Wir werden Welt den Neid und dich waschen die Frauen doch da. Und der Mann, der geht zur Arbeit und das Tag für Tag. Sag, wo kommen eigentlich die Intersexuellen her? Von ganz die Funden aus dem Meer. Es interessiert mich wirklich sehr immer mehr. Frag ich mich, ist es denn wirklich so wichtig? Ob ich zwischen ihr und Stiche oder hin und her switch? Es haben nicht als Track Queens, die bei den Frauen immer voll. Und es tanzen auch nicht nur schwule Männer so toll. Was soll das? Warum werden solche Sachen gesagt und gefragt? Aus Niederfrust und Langeweile in diesem miesen Staat. Ich sag euch mal, wenn ihr wirklich was zum Einordnen braucht, nenn mich ein Gender Queer Tranny Boy, das war's, ich bin raus. Geschlechterrollen, ich dachte mich, ich schein Teil. Geschlechterrollen, dazu sage ich gar nein. Ja, Geschlechterrollen werde ich nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Geschlechterrollen, wir lassen uns nicht schein Teil. Geschlechterrollen, dazu sagen wir gar nein. Ja, Geschlechterrollen werden wir nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. I'm a he. Geschlechterrollen, ich schaffe mich, ich scheint ein Geschlechterrollen, dazu sage ich gar nein. Ja, Geschlechterrollen werde ich nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Geschlechterrollen, wir lassen uns nicht scheint ein Geschlechterrollen, dazu sagen wir gar nein. Ja, Geschlechterrollen werden wir nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Geschlechterrollen, ich schaffe mich, ich scheint ein Geschlechterrollen, dazu sage ich gar nein. Ja, Geschlechterrollen werde ich nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Geschlechterrollen, wir lassen uns nicht scheint ein Geschlechterrollen, dazu sage ich gar nein. Ja, Geschlechterrollen werden wir nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Ja.
Voilà, donc c'était Geschlechterrollen de CBA. Et maintenant, je vais vous parler de Roselyne Bachelot. du DSM-5. Oui, oui. D'un truc qui s'appelle le DSM-5 et d'une campagne donc, de mobilisation qui s'appelle Stop Pathologisation Trans 2012. Mais avant, je voulais préciser que je ne suis pas moi-même transsexuelle, mais que j'ai envie d'être solidaire de la lutte des personnes trans, parce qu'en tant que féministe et en tant que personne ayant une sexualité déviante, sans dire que les trans vivent les mêmes types d'oppression que les femmes ou les lesbiennes, eh ben, il me semble qu'on a vraiment pas mal de questions et de revendications en commun. Entre autres, la revendication pour le droit à disposer de nos corps comme nous l'entendons, la volonté de questionner les évidences sur la nature et sur les genres qui ont cours dans cette société, et la volonté d'en finir avec l'hétéropatriarcat, ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà, alors peut-être vous vous rappelez qu'en mai 2009, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a annoncé la dépsychiatrisation de la transsexualité. C'est une revendication qui est portée de longue date par les associations trans. Et cette annonce avait été largement reprise dans les médias. Et on a pu entendre, par exemple, que grâce à cette décision de Roselyne Bachelot, la France devenait le premier pays au monde à supprimer la transidentité de la liste des maladies mentales. Comme disait ma grand-mère, il vaut mieux entendre ça que d'être sourde, mais quand même. Des collectifs trans comme Pink Freaks, Outrans, Chrysalide ou les Panthères Roses ont dénoncé l'effet d'annonce de cette déclaration et l'arnaque qui se cachait derrière. La ministre ne proposait pas de retirer le transsexualisme de la liste des maladies mentales, mais de la liste des affections psychiatriques de longue durée, ce qui signifie seulement la fin du remboursement des soins médicaux des personnes trans. Et elle précise même que, je cite, « cette déclassification ne veut pas dire renonciation au diagnostic médical des troubles de l'identité de genre ». Désirer changer de genre est aujourd'hui, en France, considéré comme une maladie mentale. Il existe, comme vous venez de nous l'expliquer, donc, ce qu'on appelle le protocole officiel, qu'on pourrait aussi appeler parcours du combattant ou de la combattante, et qui est aujourd'hui la voie la plus connue et aussi la seule à être remboursée par la Sécu. Pourquoi ce sont des médecins, autoproclamés spécialistes de la question trans, qui décident pour les personnes concernées ? Pourquoi les personnes trans doivent-elles subir les questions de ces personnes et faire semblant de correspondre au cliché du genre vers lequel elles veulent transitionner ? Pourquoi ne peuvent-elles pas choisir leur médecin, décider elles-mêmes si elles désirent ou non le soutien d'un psy et non pas une évaluation psychiatrique ? Pourquoi sont-elles traitées comme des malades mentales ? Est-ce que c'est pas plutôt la société qui est malade et qui ne supporte qu'une vision binaire du genre ? Soit on est un homme, on a une bite et on aime dominer, soit on est une femme, on a un vagin et des seins et on subit la domination sans broncher, et ce, du début à la fin de sa vie. Qu'il s'agisse des femmes ou des trans, il y a toujours un nombre incroyable de personnes, souvent des hommes, souvent des blancs, autoproclamés spécialistes, pour nous expliquer que nous ne sommes pas capables de choisir pour nous-mêmes et pour vouloir protéger la société contre nos déviances. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais cette situation n'est pas une particularité française, puisque la transsexualité est décrite également comme une maladie mentale par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui s'inspire du manuel diagnostique et statistique des maladies mentales de l'Association américaine des psychiatres. Rien que ça. Et ça, c'est plus connu sous le nom de DSM. On en est aujourd'hui à la 4e version de ce manuel, qui répertorie les maladies mentales et sur lequel s'appuie plus ou moins tous les psychiatres, pour décider de qui est malade et qui ne l'est pas. Donc, d'après le DSM-4, la plupart d'entre nous sommes des malades mentaux, puisque la dépression, l'anxiété, la timidité, l'addiction à la caféine, à la nicotine, à Internet, le sadisme, le masochisme, le voyeurisme y sont répertoriés. Donc, ça pourrait nous faire beaucoup rire, sauf que ça a beaucoup de conséquences. Et la 5e version du DSM, donc, qui va s'appeler le DSM-5, doit sortir en 2012. Et il y a une équipe de 5 psychiatres qui vont déterminer l'avenir donc, de ce qu'on appelle le trouble d'identité de genre. Et au vu de qui sont ces personnes, on peut parier que le retrait de la transidentité des listes des maladies mentales n'est pas dans leur programme. En fait, la situation elle est très alarmante, puisque parmi ces 5 personnes, il y en a au moins 3 qui sont tristement connues. Donc le docteur Zucker, qui est connu pour ses traitements, ou on pourrait plutôt parler de mauvais traitements, sur des enfants à l'identité de genre atypique, c'est-à-dire qui sont trans ou qui ne sont pas conformes, pas assez conformes au rôle masculin ou féminin, ou qu'ils témoignent des attirances pour des personnes du sexe opposé ou dont le genre n'est pas non plus clairement déterminé. Donc le docteur Zucker, il est aussi connu pour ses positions contre la dépsychiatrisation de l'homosexualité et pour ses positions en faveur de l'eugénisme. Donc, comme les docteurs Bailey et Blanchard, qui sont aussi membres de la commission qui doit plancher sur le cas des troubles de l'identité de genre pour le DSM-5, le docteur Zucker croit en l'existence de gènes de l'homosexualité et de la transsexualité et est convaincu qu'il serait préférable de détruire les embryons porteurs de ces gènes ainsi que les embryons susceptibles de devenir des personnes intersexuées avant leur naissance. On pourrait vraiment rire d'opinions aussi rétrogrades si ces personnes n'avaient pas le pouvoir qu'elles ont entre les mains, c'est-à-dire celui de décider qui est malade mental, qui peut donc choisir pour lui ou elle-même, ou au contraire, qui devra être traité comme une personne irresponsable dont les médecins sont plus à même de définir les besoins. Ces médecins ont également des intérêts financiers dans cette histoire, puisqu'ils ont des actions dans l'industrie pharmaceutique. Eh ben ouais, c'est voilà, tout se tient. Plusieurs associations trans, mais aussi des assos gays et lesbiennes, parce qu'en fait, il est possible, voire probable, que les personnes dites homosexuelles soient indirectement visées par le nouveau DSM. Donc, il y aurait une espèce de repsychiatrisation de l'homosexualité. Et aussi des personnes intersexuées. Donc, il y a plusieurs assos trans et gays et lesbiennes qui ont dénoncé la présence de ces personnes dans cette commission. Et il y a aussi des associations de médecins, comme l'Association américaine des psychologues, qui se sont elles aussi élevées contre la composition de cette commission. Il reste 2 ans avant la sortie du DSM-5, et si la situation est alarmante, tout n'est pas encore joué. Il y a le docteur Cohen Ketenis, qui est une psychiatre qui travaille en Hollande dans les programmes d'accompagnement des transitions des adolescents et adolescentes, qui fait aussi partie de cette commission. Et même si elle est la seule personne de ce groupe à avoir cette approche respectueuse, ben, ça peut quand même jouer, on peut espérer. Et puis surtout, il y a plusieurs associations qui s'organisent pour faire pression sur les institutions et faire entendre la voix des personnes trans. Donc la dépathologisation, c'est une revendication qui est portée par différentes assos depuis plusieurs années, mais face à l'imminence de la sortie du DSM-5, il y a une mobilisation pour créer un mouvement unitaire de grande ampleur, et ça c'est la campagne Stop Pathologisation Trans 2012, qui est partie de Barcelone, je crois, et qui concerne aujourd'hui apparemment plus d'une trentaine de villes en Europe, en Amérique du Nord, et peut-être aussi en Amérique du Sud, je sais pas. Ouais, il y a aussi en Amérique du Sud.
Ouais, pas mal de pays en Amérique du Sud.
Et du coup, sur ces trois continents, il y a déjà des personnes qui se sont mobilisées autour de 5 revendications. En fait, il y a 5 revendications unitaires. Et les mobilisations, la visibilité de ça, elle s'est surtout faite lors de la journée du 17 octobre, qui est la journée contre l'homophobie et la transphobie. Et donc, voici ces 5 revendications. C'est premièrement le retrait du trouble de l'identité de genre des manuels internationaux de diagnostic. Deuxièmement, le retrait de la mention de sexe dans les documents officiels, donc qu'il s'agisse de carte d'identité, carte de sécu, etc. Troisièmement, de l'abolition des traitements de normalisation binaire imposés aux personnes transgenres et intersexuées, appelés protocoles. Donc là, il s'agit, par normalisation binaire, on entend ici l'obligation d'être soit un homme, soit une femme. Quatrièmement, le libre accès aux traitements hormonaux et chirurgicaux sans tutelle psychiatrique. Et cinquièmement, la mise en œuvre d'actions contre la transphobie, la formation éducative et l'insertion sociale et dans le monde du travail des personnes trans. Donc ça, ce sont les 5 revendications qui sont portées collectivement et auxquelles s'ajoutent des revendications qui ensuite sont différentes en fonction des collectifs. Et pour la France, s'ajoute entre autres une revendication importante qui est celle de la prise en charge intégrale des soins liés à la transition par la sécurité sociale. Alors vous pouvez trouver plus d'infos sur cette campagne sur Internet en tapant « stop » comme en français, pathologisation, et la pathologisation, c'est avec un Z, trans 2012. Et puis, voilà, vous pouvez aussi venir voir le film dont on va parler. Mais peut-être vous avez envie de rajouter quelque chose là-dessus ?
Ouais, moi je voulais juste dire que le DSM-5 qui était prévu pour sortir en 2012, il va être repoussé pour l'instant à 2013. Parce que en ce moment, aux États-Unis, c'est en train un peu de bouger. Alors, c'est pas forcément sur cette commission, mais un peu sur toutes les commissions où il y a pas mal d'historiens, de sociologues et de gens comme ça qui commencent à dire « mais c'est n'importe quoi, on commence à pathologiser toutes nos émotions, etc. » Et qu'en plus, il y a eu cette étude du DSM-4 qui a montré que tous les psychiatres étaient liés à l'industrie pharmaceutique dans ce groupe-là. Du coup, ça a fait pas mal de scandales. Et que ça fait un peu une espèce de pataquès qui fait qu'ils ont repoussé d'une année. Et peut-être qu'ils repousseront encore et encore, et qu'ils ne le ressortiront jamais.
Tant mieux. Ça laisse un petit peu plus de temps pour faire pression.
C'est ça.
Du coup, sur cette question, la question que vous avez abordée tout à l'heure des protocoles, la question de la psychiatrisation, donc du DSM, et de l'obligation pour les personnes trans de devoir sans cesse justifier leur identité, donc face aux médecins, aux administrations, aux psychiatres, aux psychologues, aux chirurgiens, etc. Donc toutes ces questions sont notamment posées de manière assez approfondie dans le film documentaire « L'ordre des mots ». Donc ce film qui a été réalisé par Cynthia et Melissa Hara et qui est sorti en 2009 donne la parole à 6 personnes trans et intersexes qui sont militantes et ou activistes sur les luttes pour la reconnaissance de leur identité et la liberté de disposer de leur corps. Donc ce film, il présente donc des paroles, des témoignages de trans et d'intersexes qui racontent leur parcours, leurs questionnements, leurs luttes, leurs moyens d'action et ce qu'ils et elles entendent dénoncer. Moi, j'ai vu ce film il y a quelques mois déjà à Lyon et en fait, je vais être ravie de le revoir le mercredi 17 février, donc dans une semaine tout pile, à 18h à la fac de Tréfilerie. Donc ce documentaire, L'Ordre des mots, il sera projeté dans le cadre du programme de l'Université solidaire et il sera suivi par une bouffe végétalienne, voilà, donc pendant laquelle on pourra réagir sur ce film et discuter et se rencontrer.
Et choper des brochures.
Et choper des brochures et des tonnes de choses très intéressantes. Donc, je vous en parlerai, et peut-être nous vous en parlerons un petit peu plus, de manière un peu plus approfondie, tout à l'heure. Mais en attendant, on vous propose d'écouter quelques extraits qui vous donneront un peu une idée plus précise du ton de ce film. Ce film, qui, L'Ordre des mots, qui a été primé, quand même, il faut le dire, au Festival du film militant d'Aubagne. Donc, à tout à l'heure.
Est-ce qu'on appartient à l'humanité ? Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme ? Ce qui est dérangeant, c'est que ce qu'on croyait être normal ou naturel, d'un seul coup, face à cette déconstruction, ça ne l'est plus. Le monde, c'est ça, la normalité, c'est-à-dire une instance surplombante, inquestionnable. Mais si la normalité, ça devient des normes, c'est-à-dire une construction, eh bien, on peut la discuter, découper, contester. Vous avez vu le bordel ? Putain de trans.
En France, les premiers soins enfin, ont commencé à être faits par Breton, Banzet et Luton, qui étaient donc... trois professeurs à Paris dans une équipe, enfin, qui ont formé une équipe médicale hospitalière. Et ils ont mis en place un protocole qu'ils ont tenté, enfin pas eux, mais surtout les successeurs que sont Cordier et Galarda, d'imposer à l'ensemble de la France, alors que ce protocole n'a aucune base scientifique ni de base légale. Donc interdisant aussi à d'autres professionnels de santé de penser autrement. J'ai rencontré Breton et c'est vrai que bon, bah, c'était à l'époque le seul choix que j'avais pas d'argent, donc c'était ou là où on avait de l'argent, on pouvait aller en Belgique. Donc le fait d'être entendu, c'est soulageant dans un premier temps, mais le fait de devoir attendre si longtemps, deux ans et demi, ça met la vie entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se projeter dans l'avenir, c'est quelque chose qui devient handicapant.
Les médecins, ils ont intérêt à un moment ou à un autre à permettre à un minimum de personnes de faire la transition. Parce qu'en faisant, en permettant à un minimum de personnes de faire la transition, ils peuvent contrôler le discours. Face à ce psychiatre, face à ces psychiatres, même les plus gentils, on est quand même obligé de justifier. Pourquoi, je veux dire, ayant une apparence masculine, je veux avoir une apparence féminine ? Ou pourquoi, ayant une apparence féminine, je veux avoir une apparence masculine ? Et qu'est-ce que je mets derrière ? Mais ce qu'est-ce que je mets derrière, on ne le pose jamais aux gens qui ne posent pas la question. C'est-à-dire que jamais personne n'est tenu de justifier qu'il est un homme, qu'il est une femme. Et nous, on serait non seulement tenu de le justifier, pourquoi on fait cette demande-là, mais en plus, on serait en passant obligé de justifier, de démontrer cet indémontrable. ils sont obligés de nous donner un minimum à condition qu'on ait le discours qui rassure et qui reconstruise. Sinon, c'est je veux dire, un, on n'est pas audible, et deux, on est dangereux à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que y a pas pire poison que ce qui détruit les choses qui sont tellement évidentes qu'on ne veut même plus en parler, on ne veut même plus les re-questionner.
De la même façon que certains trans sont définis comme ça homme ou comme ça femme, mais ça ne veut pas dire que je les remets en question sur en tout cas leur vécu et leur identité. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout le cas pour moi. Ça a été une succession d'étapes et de rencontres, puisque à mon époque, le queer est arrivé en France, le terme même transgenre est arrivé en France, que la définition même et la dimension du terme genre social, sexe psychologique, était intégrée. Il y a plein de structures comme ça, ou même les associations trans n'existaient pas à une époque. Il y a plein de structures et d'avènements et de circonstances qui font qu'on peut arriver à une construction, à une déconstruction d'une identité pour une construction d'une autre identité. Ça ne veut pas dire son identité en soi, mais en tout cas une autre identité et des alternatives d'identité qui n'auraient pas pu émerger à une autre époque. Donc évidemment, je me suis définie FTU à un moment où c'était possible pour moi, compte tenu du contexte. Évidemment, je me suis aussi définie comme tout un chacun, comme transsexuel, qui veut être un homme, qui veut un changement d'état civil, qui veut une phalloplastie. Et je pense qu'on ne peut pas le nier, ça aussi, de dire, bah oui, j'assume avoir subi la binarité pendant un moment, ou même d'avoir été acteur de la binarité à un certain moment de ma vie, et ensuite être capable, justement parce que j'ai été acteur de cette binarité, de la contester. Je ne sais pas ce que c'est qu'être un homme, je ne veux pas savoir. En tout cas, je peux le pressentir de ce que j'ai pu toucher au plus près en faisant ma transition, de ce qu'on pouvait définir comme étant un homme et de ce qu'on pouvait attendre de moi en ayant une interface d'adolescent qui a pour autant 25 ans. Tu vois, tous ces mécanismes qui se mettent en place et tu fais l'expérience d'eux, finalement, tu sais que tu ne veux pas aller là. Tu sais très bien que ça ne te correspond pas. Et je sais très bien aussi que avant de pouvoir me définir en tant que garçon, j'ai surtout défini le fait que je ne voulais pas être une fille. Je ne voulais plus être considérée ou assignée en tant que fille d'emblée, ne serait-ce que par une interface et aussi en termes d'injonction, ce qu'on pouvait attendre de moi. Je ne veux pas de ça et je ne le souhaite à personne.
Après, la difficulté, c'est de pour faire émerger cette parole d'intersexe, déjà de se nommer et de se réapproprier ce nom. Les médecins nous disent qu'on est moins de 2%. Moi, j'affirme, moi et le mouvement intersexe, on affirme qu'on est au moins 20% de la population, dans la mesure où, justement, comme c'est nié, comme il n'y a pas de mots pour le dire, et qu'on n'a pas accédé jusqu'à présent à la parole, on n'était pas en capacité de se dénombrer.
En France, on considère que des parents ne peuvent pas élever un enfant qui n'est pas soit garçon, soit fille. Donc les médecins décident quasiment systématiquement d'assigner un genre vers 3 mois. Avant, ça se faisait entre 3 mois et 7 ans. Moi, j'ai été assigné à partir de 7 ans. Jusque dans les années 80, on opérait les nouveau-nés sans anesthésie, parce qu'on considérait que les terminaisons nerveuses n'étaient pas finies. Le problème, c'est que cette assignation dans la petite enfance amène nécessairement des lésions. Et contrairement à ce que disent les urologues aujourd'hui, certains urologues aujourd'hui, notamment les Français, même si les techniques ont évolué, ça obère forcément le plaisir.
Il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas d'association qui portait une parole politique sur la place publique, sur les questions trans. Et nous, ça a été un peu notre révolte par rapport à ça. On a décidé d'agir, de passer à l'action. Donc on a créé un groupe qui était un groupe informel, c'était pas du tout une association, on ne voulait pas une association de plus. Donc on a créé un groupe qui avait un fonctionnement libertaire, avec une règle simple, c'est l'unanimité. On ne faisait pas quelque chose, on ne faisait pas une action si tout le monde, enfin les 4 personnes, n'étaient pas d'accord. Et le GATT devait exister le temps que les 4 personnes travailleraient ensemble, c'est-à-dire que si quelqu'un quittait le GATT, et ben le GATT s'arrêtait.
C'était aussi une structure qui se voulait éphémère parce que l'idée avant tout c'était d'agiter le vide politique, le vide de conscience politique sur les questions trans dans la communauté trans.
Ok, donc vous êtes toujours sur Radio Dio dans l'émission féministe Rien à signaler. Donc là, dans les extraits que vous venez d'entendre, donc qui sont extraits du film L'Ordre des mots, il y a deux situations qui sont présentées. Donc la situation des personnes trans et celle de personnes intersexes. Donc dans le cadre des luttes pour l'existence libre et la reconnaissance d'identité de genre autre que femme et homme, et également pour la liberté de choisir son genre, les trans, les personnes trans et les intersexes sont théoriquement et concrètement des alliés. Ben, en fait, y a une alliance par rapport à l'assignation à une identité de genre qui est faite par la société à la naissance et par les médecins. Voilà, donc on vous en a parlé tout au long de cette émission. Mais jusque-là, dans cette émission, nous avons surtout parlé de transidentité. Or, dans les extraits du film L'Ordre des mots que nous venons de vous passer, vous avez pu entendre une personne intersexe qui expliquait l'importance pour lui, notamment de se nommer en tant qu'intersexe, de se réapproprier ce terme qui est employé essentiellement par les médecins. Voilà, et pour aussi contester la réalité qui est donnée par les médecins de l'intersexuation. Et pour contester également les chiffres qui sont donnés par ces mêmes médecins, autoproclamés spécialistes, comme quoi seulement 2% de la population serait intersexe, c'est-à-dire ni homme ni femme. Cette personne, c'est Vincent Guillot, qui est président fondateur de l'Organisation internationale des intersexes et qui sait donc de quoi il parle. En tout cas, il sait certainement plus de quoi il parle que les médecins. Et d'après lui, ce serait non pas 2% de la population, mais 20% de la population qui serait concernée par l'intersexuation. Donc on touche là à la définition même de ce qu'est être intersexe et aux enjeux que pose cette définition. Donc aux enjeux du fait que cette question, elle est taboue pour les familles. Donc, où les enfants qui naissent intersexes, par exemple, sont directement remis aux médecins et qui font n'importe quoi avec leur corps. Et voilà. Et par la norme médicale, en fait, la définition qui est donnée normalement par la norme médicale. Ces 20% que nous donne, qui est le chiffre que nous donne Vincent Guillot, ils correspondent au nombre de personnes qui rentreraient pas physiologiquement dans la case homme ou dans la case femme. Ce sont donc les enfants qui naissent avec des organes génitaux visiblement non standards, des ados dont les attributs sexuels se développent autrement que ceux d'un homme ou d'une femme, mais ce sont aussi tout un tas de personnes dont les gènes, le corps, la fertilité, etc., diffèrent de ce que devrait être ou comporter un corps sexué homme ou femme. Donc l'intersexuation, ça rejoint là la question de la transidentité dans la contestation en fait de la croyance d'un ordre biologique naturel évident qui serait binaire, donc avec d'un côté des hommes et d'un côté des femmes. Donc le film dont sont issus les extraits, il est intitulé L'Ordre des mots. Et pour moi, ce titre, il renvoie à la différence avec ce pseudo-ordre naturel. Et là, il s'agirait de contredire l'existence de cet ordre naturel. Voilà, on n'est pas essentiellement homme ou femme. Et d'ailleurs, même dans la réalité, il y a 20% des personnes qui sont ni hommes ni femmes. Voilà, dans les standards qu'on peut avoir. Donc, dans ce film, il s'agit également d'entendre des paroles auxquelles les médecins et l'ordre hétéropatriarcal ne laissent pas de place. Et par rapport à l'intersexualité et par rapport aux transidentités, ce film, il nous en apprend beaucoup. Donc, s'il comporte quand même des paroles complexes, j'ai envie de vous lire la description que le Fly annonçant la projection de ce film donc la semaine prochaine à la fac Tréfilerie en dit. Donc à la fac, ce sera donc le mercredi 17 février à 18h en salle SR2. Ce documentaire dresse un état des lieux de la question trans et intersexe en France. Il rend visible notamment le choix de ne pas se conformer aux catégories de genre tracées par la société patriarcale. Donc, loin des stéréotypes habituels sur la transidentité, il permet à chacun et chacune de se questionner sur l'immuabilité de nos identités de genre et de sexe. C'est un vaste programme et la semaine prochaine... On pourra en discuter et remettre en cause tous ces clichés ensemble.
Voilà, donc je vous conseille vivement de venir voir ce film pour plusieurs raisons. Donc, parce que c'est une occasion rare, surtout que ce film-là il n'est pas en vente au public. Pour l'instant, les productrices de ce film-là ils le vendent que. Qu'à des organisations comme des universités, par exemple. Et surtout, je voulais appuyer ce que Lucie nous a raconté, c'est que ce film-là, entre d'autres choses, pour moi, il est très important dans le sens qu'il casse les stéréotypes, les mythes qu'on a autour de l'intersexualité. Je pense que c'est vraiment quelque chose socialement pas connu. Par rapport à la transsexualité, pour moi, c'est très important cette démarche de montrer en fait que la transsexualité c'est pas quelque chose forcément qu'on subit, qu'on est né et qu'on se sentait mal dans sa peau et que qu'à un moment donné on décide de changer notre corps. Ça peut l'être, mais pas que. C'est aussi pour beaucoup de personnes un choix personnel, un choix politique. De vouloir rompre avec ces catégories hommes-femmes. Et c'est quelque chose qui est possible pour tout le monde. C'est quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de minoritaire. C'est quelque chose qui est appropriable pour n'importe qui. Que la société nous laisse nous approprier que par des chemins qui vont être contrôlés par des équipes officielles et tout, mais qui est tout à fait possible de le faire par d'autres voies. Et voilà, donc... Voilà, peut-être ce film-là, si vous avez l'occasion de venir le voir, et sinon, d'avoir la brochure qu'on a fait ou de rencontrer d'autres personnes, dans la possibilité de réfléchir autour de ça, et voilà.
Ok. Notre émission touche à sa fin. Je vous redis quand même donc, que cette projection elle a lieu... mercredi prochain à 18h à la Fac Jean Monnet en salle SR2, que c'est gratos, qu'il y a une petite bouffe végane, végétalienne après la projection, que ce sera l'occasion de discuter. Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter votre brochure, c'était vraiment chouette.
Ouais,
carrément. Merci à vous.
Et puis on va terminer avec l'extrait d'une émission qui s'appelle Body Freaks, qui est donc une émission qui est faite par des trans, pour des personnes trans et pour des personnes pas trans, sur Paris, sur Radio Libertaire. Et c'est un petit sondage qu'une personne a fait et qui est, les résultats de ce sondage sont lus. Et cette personne a posé la question « Quel est votre sexe et pourquoi ?» à des personnes dans des manifestations type existence, type le bal des traves, université d'été des intersexes et intergenres d'Europe. Voilà, donc on va finir avec ce petit montage, et juste, je vous rappelle aussi l'adresse de notre émission, l'adresse internet, c'est rien à signaler, tout attaché, @herbefolle.org. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez plus d'infos sur les choses dont on a parlé ce soir ou si vous voulez nous faire des retours. Et voilà, on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée. Ciao.
Quel est votre sexe?
J'hésite encore.
Pourquoi?
Pourquoi j'hésite? Finalement, je crois que j'en suis sûre d'hésiter.
Quel est votre sexe?
Les deux.
Pourquoi?
Parce que...
Quel est votre sexe?
Bi.
Pourquoi?
Pédé et marié.
Quel est votre sexe?
Féminin. Non. Masculin. Salope.
Pourquoi?
Pourquoi pas?
Quel est votre sexe?
Mon sexe? Pas mon genre, mon sexe. J'ai un sexe masculin, selon la société.
Pourquoi?
Ah ben alors là, parce que ça a été décrété par une instance suprême, qui est Dieu ou l'hétéropatriarcat.
Quel est votre sexe?
Mal.
Pourquoi?
Why, I think I thought about it a lot, and I think it's finally, malheureusement, more easier.
Quel est votre sexe?
À ton avis?
Pourquoi?
Je l'ai pas choisi.
Quel est votre sexe?
Bah ça, je pense que vous arriverez à répondre tout seul.
Pourquoi?
Parce qu'il est plus long.
Quel est votre sexe?
Morirai.
Por qué?
Porque no necesito otra.
Quel est votre sexe?
Masculin. Je réfléchis, mais masculin.
Pourquoi?
Nature.
Born illegitimately to a whore, most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan he was, sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun.